un podcast France Culture.
Lithium, cuivre, cobalt, des métaux qui font rêver. Ces derniers sont en effet au cœur de la transition énergétique et sont devenus les indispensables ingrédients des équipements bas carbone, comme les panneaux solaires, les éoliennes et les batteries. Tout le monde se les arrache et c'est bien là le problème. Face à cette demande qui explose, l'approvisionnement devient pour le moins problématique. De quoi donner des envies d'émancipation vis-à-vis des géants mondiaux de production de métaux à l'Europe et même à la France. Mi-mars s'est ouvert le débat public concernant l'ouverture d'une mine de lithium dans l'Allier, un projet qui met en lumière des problématiques propres à cette exploitation qui ne l'est pas toujours. Alors à quel prix se fera la quête d'indépendance de l'industrie minière? Nous poserons la question en deuxième partie d'émission à nos deux invités, les économistes Emmanuel H. et Caroline Granier. Mais avant cela, comme tous les vendredis, Entendez-vous l'écho se tourne vers une autre forme d'actualité, celle de la recherche et des idées qui font avancer l'économie et permettent de renouveler la discipline, voire de proposer des solutions pour le monde de demain. C'est ce que notre invité du jour s'est employé à formuler dans son ouvrage « Comment bifurquer les principes de la planification écologique » paru chez Zone il y a peu. Avec son co-auteur Ramzi Kecheyan, l'économiste Cédric Durand envisage les conditions de l'avènement d'une véritable transition écologique. Calcul de la valeur par le prix, recherche du profit, rôle de l'État et prise en compte d'une vision collective du futur. C'est une économie débarrassée de ses vieux principes qui se dessine dans les pages de son ouvrage. Il y a urgence et il nous faut un plan. C'est tout le programme d'Entendez-vous l'écho. Bonjour Cédric Durand.
Bonjour.
Cédric Durand, votre ouvrage vient s'inscrire dans une longue série, voire une tradition, comme on pourrait l'appeler désormais, de livres consacrés à la transition écologique, voire carrément à la décroissance qui fleurissent actuellement dans les librairies. Que proposez-vous dans votre ouvrage? Est-ce que c'est une histoire, une réflexion théorique, une méthode concrète, un programme politique pour amorcer cette bifurcation?
C'est un ouvrage qui propose des principes pour amorcer cette bifurcation. Comme vous venez de le dire, effectivement, il y a beaucoup de discussions sur ce thème. Il y a même beaucoup de travail institutionnel, beaucoup de politiques qui sont menées en matière écologique. Depuis des décennies d'ailleurs, depuis les années 1970 au moins. Et pourtant, la crise écologique ne fait que s'intensifier. Donc on a pris ce paradoxe au sérieux et on a essayé de voir quelles étaient d'une part les raisons de cet échec et d'autre part d'esquisser des pistes pour enfin bifurquer.
Alors justement, en parlant des raisons de l'échec, vous écrivez dans votre ouvrage « Il y a urgence et il nous faut un plan ». Pourtant, malgré cette urgence-là, vous faites le constat d'une impuissance à agir, bloqués que nous sommes toutes et tous dans les logiques capitalistes qui font du profit le seul et unique moteur de l'action. Or, ce que vous dites, c'est que de transition écologique, il n'y aura pas tant qu'on n'aura pas dépassé cet horizon du profit.
C'est exactement ça. En fait, il y a trois obstacles. Le premier obstacle, c'est une société qui est principalement pilotée par la croissance économique et l'illusion d'une croissance qui soit découplée de l'impact environnemental. Alors on peut concevoir ça, imaginer qu'il y ait des solutions technologiques qui permettent d'y parvenir, mais il n'y a aucune indication concrète, aucune démonstration statistique, aucune démonstration empirique qu'aujourd'hui on arrive à découpler l'impact écologique de la croissance économique. Il y a un deuxième obstacle, qui n'est pas des moindres, c'est que le capitalisme, comme vous le savez, est un système qui est dirigé par la logique du profit. Donc on entreprend, on est créatif, on invente des choses, et effectivement c'est spectaculaire, mais sous un filtre nécessaire qui est celui de faire du profit. Or le problème de la bifurcation, c'est qu'il va falloir non seulement créer de nouvelles choses, bien sûr, mais il va falloir aussi démanteler. Et ça, vous ne connaissez pas un capitaliste qui va accepter de travailler pour quelque chose qu'il s'agit de démanteler, c'est-à-dire qu'il ne va pas produire de valeurs d'usage qui pourront être vendues. Donc cette question du démantèlement, évidemment, est une grosse affaire. Sortir d'une économie carbonée, sortir d'une économie intensive en produits chimiques, ça nécessite de démanteler un certain nombre d'établissements industriels, de requalifier un certain nombre de travailleurs, et évidemment, toutes les personnes qui vont être impliquées dans ce travail-là doivent être payées. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment une impasse du point de vue du capitalisme. Puis le troisième élément, c'est l'investissement. Et l'investissement qui est à réaliser, un investissement considérable, à la fois du point de vue des montants qui sont en jeu, mais aussi de la diversité des secteurs qui sont concernés. Et c'est quelque chose qui est assez admis par les gens qui travaillent de près sur le sujet. Les puissances privées n'ont pas la capacité de faire ça. que ce soit les plus grands financiers comme BlackRock ou que ce soit les géants de la tech, ils peuvent avoir de ce qu'on appelle du solutionnisme, c'est-à-dire rentrer par tel ou tel petit point et proposer un petit gadget qui peut jouer un rôle positif éventuellement. Mais quand il s'agit d'avoir une métamorphose d'ensemble, il faut de la coordination et il faut des moyens financiers que seuls les États ont les moyens de déployer.
Et par ailleurs, on manque d'une ressource cruciale aussi dans cet avenir, c'est celle du temps. C'est qu'on n'a pas le temps de se poser la question de si ça va être profitable à court, moyen, long terme.
C'est exactement ça. Il faut agir rapidement. C'est pour ça qu'un des parallèles qu'on fait avec une certaine distance dans le livre, mais qu'on questionne, c'est la question de l'économie de guerre. Pourquoi ? Parce que les moments de guerre ou les moments de reconstruction sont des moments où on fait des choses extraordinaires en très peu de temps. Alors, bien sûr, il y a un caractère qui n'est pas démocratique. Souvent, les économies de guerre sont des moments d'union sacrée dans lesquels on suspend un certain nombre de libertés démocratiques, où on prétend qu'il y a une unité nationale. C'est pas exactement ce qu'on développe dans le livre. On met en avant au contraire une logique de justice sociale. Mais il y a aussi ce phénomène qui, par contre, est un véritable parallèle juste, c'est que dans une période de guerre ou de reconstruction, il y a un effort temporaire qui est fait en vue d'un bien-être ultérieur plus important. Et de ce point de vue-là, dans la bifurcation écologique, il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Il s'agit de se mobiliser tous et toutes maintenant pour démanteler ce qu'il s'agit de déconstruire, pour reconstruire une économie propre et pour pouvoir vivre en harmonie avec la nature.
Mais pourquoi on ne pourrait pas envisager, Cédric Durand, une forme de compromis entre cette logique capitaliste du profit et la logique de très long terme, donc de la transition, et à la fois très urgente, et se dire, en fait, on va parler le langage des deux et proposer des solutions qui satisferaient tout le monde. Et c'est du reste un peu ce qu'on a commencé à faire en essayant de monétiser les externalités négatives, je pense notamment à la taxe carbone, entre autres. Pourquoi ça, selon vous, ce ne sont pas des solutions envisageables ou en tout cas pas pérennes ?
Alors le principal problème avec l'idée de monétiser les externalités négatives de type taxe carbone ou alors de donner un prix à la nature, c'est que fondamentalement, on réduit la nature justement à une seule dimension. On fait comme si on pouvait comparer les gypaètes barbus et les lys martagons, les rivières et les forêts. Alors que ces choses-là sont fondamentalement distinctes, fondamentalement différentes. Donner un prix à la nature, par ailleurs, est une absurdité si on réfléchit logiquement à cette question-là. Parce que la nature prise dans son ensemble a évidemment un prix infini, c'est la condition de notre vie à toutes et à tous. Par conséquent, chaque bout de la nature est une parcelle de ce prix infini, a donc un prix infini. On ne peut pas véritablement monétiser la nature. Puis il y a un autre problème qui est plus d'un ordre moral et qui effectivement nous oppose aux partisans par exemple de la taxe carbone, qui font reposer toute leur évaluation sur une idée de calcul d'actualisation. C'est-à-dire qu'on accepte de polluer, de dégrader la nature dans une certaine mesure aujourd'hui parce qu'on lèguera aux générations futures un progrès technique qui leur permet de vivre mieux. Eh bien, cette position, elle est très choquante. De notre point de vue, tel qu'on le défend dans le livre, au contraire, il s'agit de restituer aux générations futures la nature dans l'état le plus stable possible, le plus intègre possible, pour qu'elles puissent, à leur tour, vivre leur vie et inventer des choses à leur manière. Mais on n'a pas de principe moral, de légitimité morale, à leur laisser une nature dégradée, soit disons au nom du produit technique.
Donc ce qu'on comprend, c'est que parler le langage du prix, le langage du profit ne fonctionne pas, en tout cas pas de façon intelligente et encore une fois démocratique, on pourrait le dire. De la même façon, employer une forme de contrainte institutionnelle, on pourrait se dire pourquoi pas, finalement, à travers l'émission de normes, l'État pourrait aussi contraindre les entreprises à respecter certains engagements. Mais ça, encore une fois, Cédric Durand, selon vous, ça représente aussi certaines limites.
Oui, en fait, la réglementation comme le prix peuvent jouer un rôle. Il ne s'agit pas de dire que ça n'a aucun effet sur les comportements et que ça ne peut pas faire partie d'un programme de planification écologique. Mais ce n'est pas décisif. Ce ne sont pas les institutions décisives dont nous avons besoin aujourd'hui. Les institutions décisives dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout un moyen de connaître la contrainte écologique et d'institutionnaliser cette connaissance. Et ce sont tous les débats autour de la comptabilité écologique. Alors là, il y a des débats extrêmement intéressants. Vous évoquiez tout à l'heure la question du système de prix. Aujourd'hui, les démarches en vigueur consistent principalement à donner un prix à la nature et se dire on va mesurer ce qu'on dégrade par rapport au prix des services qu'elle produit. Donc, une forêt produirait de l'air pur, et bien on évaluerait le prix de cet air pur ou le prix du caractère agréable d'une promenade dans cette forêt. À l'inverse, une autre démarche de comptabilité qui a été par exemple proposée par André Vanoli, qui était un comptable de l'INSEE, c'est l'idée d'avoir un inventaire permanent de la nature. Un inventaire permanent de la nature, c'est quoi ? C'est mesurer en permanence les différentes composantes de cette nature dans leur qualité même, la biodiversité, la composition chimique de l'air, le niveau des pollutions dans des rivières, et agir de manière à préserver cette intégrité. Et donc, on fait bien rentrer le calcul économique, mais on mesure le coût que ça leur représente de préserver l'intégralité de la nature. Et de cette manière-là, on pilote les économies par rapport à cette contrainte économique qui consiste à respecter leur intégrité. Et donc là, il y a une logique vraiment extrêmement importante de notre point de vue, c'est de mettre le calcul écologique avant le calcul économique. On subordonne le calcul économique à ce calcul écologique.
Si je vous comprends bien, on passerait d'un système prix qu'on connaît toutes et tous en monnaie, en euros, etc., à un calcul en nature, en calcul par ressources naturelles.
Exactement, donc ça c'est pour la dimension écologique. Une fois qu'on arrive au niveau de la vie quotidienne, la monnaie aurait toujours sa place. Dans la logique globale, on définit d'abord l'espace où l'activité économique peut exister par un certain nombre de contraintes écologiques qui déterminent la viabilité des organisations. Pour donner un exemple très concret, une entreprise chimique qui travaillerait au bord d'une rivière, on peut avoir besoin de produits chimiques pour produire des médicaments, c'est des choses qui vont continuer. Mais il va falloir intégrer dans l'ensemble des coûts de cette entreprise les coûts de dépollution liés à son activité. Et donc, il va falloir que cette entreprise puisse être viable du point de vue économique en prenant en compte ses coûts de dépollution. S'il n'y a pas de viabilité d'un point de vue économique en prenant en compte ses coûts de dépollution, eh bien, dans ce cas-là, l'entreprise ne sera pas viable, hein, et elle devra donc être éliminée, c'est qu'il y aura d'autres solutions qui auront été trouvées, sinon elle ne serait pas là.
Mais donc il y aurait quand même l'idée d'intégrer une forme d'intérêt commun, d'intérêt général dans ce calcul-là. Parce qu'une entreprise pourrait très bien se dire, si je pollue telle ressource dont je vais avoir besoin sur le court moyen terme, c'est complètement illogique et absolument pas rationnel pour moi. Et là l'idée c'est de passer du « pour moi » à « pour tout le monde », en fait.
Voilà, pour tout le monde, en fait, il y a deux niveaux de calcul qui sont pertinents. Un niveau macroécologique, qui est en fait le niveau du système Terre. Il faut regarder les gaz des émissions à effet de serre, etc. Et puis regarder territoire par territoire comment on s'inscrit dans une réduction globale. Mais il y a aussi une échelle très locale, qui est l'échelle des écosystèmes. Je parlais d'une rivière, on parle d'une vallée. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui participent à cet écosystème, qui agissent dessus. Et ceux-ci doivent se coordonner pour mesurer l'impact sur l'écosystème et se coordonner pour respecter son intégrité.
Alors, vous le disiez un peu plus tôt dans l'émission, il y a peut-être des leçons, ou en tout cas de l'espoir à tirer des temps de crise. Alors, même si la crise écologique n'est pas celle du Covid ou celle du temps de guerre, en tout cas, le rapprochement n'est pas forcément heureux. Mais en tout cas, cette question, certains politiques sont saisis. Et on écoute tout de suite Emmanuel Macron en 2022.
La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au XIXe siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'Instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Parce que cela concerne tous les domaines, tous les secteurs, toutes les dépenses, tous les équipements, tous les investissements, bref, toutes les politiques. Ça n'est pas simplement une politique, c'est la politique des politiques.
Cette planification annoncée par voie présidentielle, donc à Marseille en avril 2022, Cédric Durand, est-ce qu'elle correspond à l'idée que vous en développez dans votre ouvrage ?
L'idée que c'est la politique des politiques est quand même une idée extrêmement forte et que je pourrais tout à fait reprendre à mon compte. Le grand drame que l'on a, c'est que ce sont des mots creux, ce sont des mots qui ne sont pas suivis des faits. Alors, il y a un travail qui est réalisé hein, au sein du secrétariat à la planification écologique auprès du Premier ministre, en termes notamment de comptabilité. Alors, il y a des limites, mais il y a un travail sérieux qui est fait. C'est une bonne nouvelle qu'on commence à regarder les choses, non pas à travers le système de prix, mais en comptant véritablement les choses. Ça, c'est un progrès. Mais les leviers de cette planification écologique ne sont pas véritablement activés. Quels sont ces leviers ? Eh bien, ces leviers sont d'abord et avant tout la question de l'investissement. La question de l'investissement, c'est la manière dont on pilote notre système productif. Et il n'y a pas d'instance, le secrétariat à la planification écologique n'en a pas les moyens hein, de coordonner véritablement l'investissement. Jean Monnet, hein, après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de l'élaboration du premier plan, avait mobilisé 1 million de personnes qui travaillent sur cette question du plan. Ils sont 30 dans le cadre du secrétariat à la planification écologique. Et il y avait dans cette mobilisation-là des représentants des syndicats, des représentants des secteurs industriels. Et donc voilà, il y avait cette vie démocratique, si vous voulez, qui accompagnait l'élaboration du plan. Elle est où la vie démocratique qui accompagne l'élaboration de la planification écologique aujourd'hui ? Comment penser que le pays va pouvoir bifurquer, changer de trajectoire, sans qu'il y ait un large consensus politique qui ait été construit par un débat démocratique approfondi ? C'est véritablement une illusion, et c'est un des murs sur lequel on bute. pas de levier d'action véritablement sur l'investissement, mais pas non plus d'input démocratique du côté de l'élaboration du projet.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous résumez dans votre ouvrage en disant que l'anarchie de la production, concurrence entre capitaux privés, empêche que les investissements nécessaires à la bifurcation écologique soient collectivement hiérarchisés et réalisés. C'est donc, si on vous comprend bien, Cédric Durand, cette collectivisation finalement des intérêts puis leur hiérarchisation qui doit être mise en œuvre.
Exactement. En fait, la planification, fondamentalement, c'est deux choses. C'est un moment démocratique de définition d'une trajectoire et puis c'est un moment plus technique de déploiement de celle-ci. Alors, quel est le moyen de déployer techniquement celle-ci ? Eh bien, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien dans l'histoire économique. C'est la socialisation de l'investissement, le pilotage de l'investissement. Comment fait-on ça ? Il y a plusieurs leviers. Un des leviers, ça a été traditionnellement le secteur public. On a des grandes entreprises publiques, on leur donne des priorités et elles choisissent de se déployer en fonction de ces priorités. Il y a également la question de la politique du crédit. C'est quelque chose, par exemple, qu'a étudié en détail Éric Monnet dans son travail sur la Banque centrale après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on décide par secteur d'un certain nombre d'éléments de coût du crédit, mais aussi de contingentement du crédit, hein, la quantité de crédit qui sont développés. Et de cette manière-là, on peut effectivement développer des secteurs et en réduire d'autres. Bon. Et puis, il y a également un principe qu'on déploie dans le livre et qui, pour nous, est extrêmement important, c'est l'idée d'expérimentation. Hein. Si cette planification, c'est un pilotage, c'est pas pour autant un processus qui va rendre fossile l'économie, qui va la bloquer. Hein. Au contraire, il s'agit d'avoir ces grandes orientations par secteur, mais de laisser par territoire des espaces pour expérimenter, pour trouver des solutions techniques aux grands objectifs qui ont été fixés.
Et si on vous comprend bien, Cédric Durand, vous nous parlez d'investissement, vous nous avez parlé aussi, quelque part, non pas de désinvestissement, mais en tout cas d'abandonner certains pans de l'économie. Sauf que ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans votre ouvrage, c'est que sur ce démantèlement-là, vous dites que même si on fait ça, il y aura toujours finalement des acteurs économiques qui vont en profiter. Il y aura toujours des acteurs économiques qui vont s'accaparer ces déchets financiers finalement. Et qu'il faut quelqu'un pour assurer un suivi de ce démantèlement.
C'est un point extrêmement important que vous soulevez. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de campagnes d'activistes qui visaient à désinvestir, à faire pression sur les acteurs financiers pour qu'ils désinvestissent des entreprises sales. Bon. Et par exemple, eh bien, Daniel Kretinsky, qui est aujourd'hui un acteur important du monde des médias, a fait fortune en rachetant les usines de charbon, les centrales à charbon qui étaient abandonnées par les grands géants de l'énergie qui, sous pression des activistes, avaient vendu leurs actifs. Mais les centrales à charbon, elles n'ont pas arrêté de fonctionner. Donc il faut bien faire attention entre le désinvestissement par des acteurs de premier plan, sous pression de campagnes médiatiques, et d'un autre côté, le démantèlement bien réel des équipements et le fait qu'ils soient mis au rebut. Et là, pour que ceci ait lieu, eh bien, vu que c'est un coût, il faut, d'une certaine façon, socialiser ce coût. Il faut que ce soit l'État qui le prenne en charge. Alors, pour que ce soit acceptable, ceux qui en ont profité, sans doute, vont devoir mettre la main à la pâte. Est-ce que c'est une taxation one-shot, comme le proposent, par exemple, des gens comme Lucas Chancel, sur la richesse ? Ou est-ce que, bon, on peut discuter de ce scénario-là. Mais en tous les cas, il va bien falloir que la puissance publique prenne en charge ces dépenses de démantèlement que les capitaux privés ne vont pas mettre en œuvre.
Cela dit, juste pour insister sur cette notion de puissance publique, justement, Cédric Durand, on est bien d'accord qu'on ne parle pas forcément de l'État en tant qu'institution, mais on parle d'un État qui prendrait en compte, finalement, un avis collectif. Qui serait capable de le faire.
Donc, ce sur quoi on insiste beaucoup, c'est une transformation de l'État, en fait. Hein, c'est une augmentation de la démocratie. C'est un des termes que l'on emploie dans le livre. Pourquoi ? Parce que toute une série de questions aujourd'hui décisives pour notre destin collectif nous échappent. Hein, à travers le monopole qu'exercent les grandes entreprises sur les décisions d'investissement. Eh bien, en remettant ça en cause, en ayant un pilotage de ces grandes orientations de l'investissement par la démocratie, on enrichit la démocratie et on transforme nécessairement l'État.
Cédric Durand, votre ouvrage fait référence à de très nombreux auteurs, à de très nombreux théoriciens de l'économie, mais aussi des sciences politiques. Vous dédiez votre ouvrage à Michel Husson, et il occupe d'ailleurs une place assez importante aussi dans un de vos chapitres. Qu'est-ce que vous lui devez ?
Beaucoup de choses. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant une bonne quinzaine d'années, et qui pour moi a lié de manière tout à fait remarquable trois choses. Hein. D'abord l'excellence et la rigueur d'analyse, hein. C'était un grand statisticien qui a travaillé à l'INSEE, qui avait une très grande culture économique. D'autre part, c'est une grande modestie, et une modestie qui le rendait très accessible, avec une grande générosité dans le partage des savoirs et dans la transmission, mais aussi une troisième chose, c'était un engagement. C'est quelqu'un qui avait participé, par exemple, à l'organisation d'attaques, à différentes campagnes sur les retraites, et qui, cette pédagogie, cette excellence académique, la mettait au service du débat démocratique.
D'ailleurs, vous le définissez comme un économiste marxiste. Vous diriez que cet théorie marxiste qu'il défendait peut être mise au goût du jour, peut avoir une pertinence renouvelée aujourd'hui?
C'est le cas. C'est le cas aujourd'hui dans l'espace académique. En tous les cas, il y a beaucoup de travaux qui se développent dans cette perspective-là. Pourquoi ? Parce que face au paradigme néoclassique qui présuppose une harmonie de l'ordre économique à travers le mécanisme de marché, il n'y a finalement pas vraiment de grandes théories qui permettent, de grands paradigmes qui permettent de contester ça. Il y a une pluralité d'approches qui sont très, très nombreuses, mais la grande force du marxisme, c'est d'avoir une théorie sociale qui déborde de l'économie vers les autres dimensions de la vie sociale et qui essaye de les articuler. C'est une science de la société, finalement. Et ce paradigme-là est aujourd'hui, à mon avis, extrêmement utile pour penser la conjoncture de crise dans laquelle on est, mais aussi pour redonner espoir, parce que la société et son devenir nous sont accessibles en tant que collectif.
Elle est utile, mais à quelles conditions elle pourrait devenir audible ?
Écoutez, je sais pas, aux conditions d'avoir des espaces pour être écouté. Je le disais tout à l'heure, dans l'espace académique aujourd'hui, les choses ont très largement évolué par rapport à ce qui était le climat des années 90, où on avait un naïf espoir dans l'économie de marché. Aujourd'hui, devant la grande crise de 2008, devant des inégalités galopantes, devant l'incapacité des gouvernants à proposer une solution à la hauteur de la crise écologique, eh bien, il y a une recherche d'alternatives. Donc ça, c'est une première condition. Une deuxième condition, c'est effectivement aussi d'avoir des espaces pour discuter avec les mouvements sociaux, avec les différents paradigmes politiques, mais aussi avec les autres sciences sociales. Ce dialogue entre sciences sociales, comme on a essayé de le faire, c'est un livre d'économie, mais aussi de sociologie, ouvert sur les sciences politiques, la philosophie. C'est aussi cet exercice pluridisciplinaire qui offre un espace à ce type de perspective.
Merci beaucoup Cédric Durand.
Je vous remercie beaucoup.
Buying was just rags and old iron. I heard an old rag man out making his rounds. He came right to my alley, Lord, with sorrowful sounds, crying rag old iron and pulling his cart. Ask him how much he'd give me for my broken heart. Rags old iron, rags old iron. All he was buying was rags and old iron. So I asked that old rag man how he would pay for a heart that was broken, baby, when you went away. For a burnout old love light that no longer beams, and a couple of slightly used second-hand dreams. Rang old iron, oh, rang old iron. All he was buying was rags and old iron.
C'était Rags and Old Iron de Nina Simone, un titre sorti en 1961 et justement de métaux, il va être question dans cette deuxième partie d'émission.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliatovin.
Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium.
Et on a du gaz de schiste.
Mais on a du lithium, surtout pour nos batteries. Elles ont besoin de lithium. Attendez, non mais si on fait des batteries, ce qu'on va faire en France, on en fera 2 millions à la fin du quinquennat. Le coût d'une batterie, à 80%, c'est des matériaux terres rares, c'est ce qu'il y a derrière. Et donc c'est pour ça qu'on va rouvrir des mines de lithium, des mines responsables, et qu'on va surtout rouvrir toutes les filières qu'il y a en amont pour pouvoir maîtriser les coûts et la filière. Mais surtout, comme nous en plus on produit notre électricité et qu'elle est décarbonée, le modèle se boucle.
Aujourd'hui, le coût de la batterie représente plus ou moins un tiers d'un coût d'une voiture électrique. Alors, c'est significatif et certainement la diffusion des voitures électriques dépend fortement de la batterie. Le prix actuel de lithium est un prix, je trouve, artificielle. La demande a explosé à partir de 2020 avec la transition écologique, avec les annonces de différents pouvoirs publics d'arrêt de moteurs à diesel ou à essence. Et les projets sont un petit peu en retard. Il y a du lithium partout dans le monde, avec des teneurs différentes. Je suis convaincu qu'on a la possibilité d'augmenter la production sous les prochaines années pour accompagner la demande.
C'est essentiel sur les panneaux solaires, sur les pompes à chaleur, sur l'hydrogène, sur l'éolien. Il faut qu'on fabrique en France et en Europe. D'abord parce que c'est la seule manière de réconcilier écologie et économie. On parlait de fin du monde, fin du mois. Soit vous importez ça du bout du monde, soit vous le créez chez vous. Ça va créer de l'emploi. Ça va créer de la transition écologique, le bilan environnemental est meilleur, et au fond, ça coûte pas beaucoup plus cher.
En France, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium, une phrase prononcée en octobre 2022 par Emmanuel Macron et qui a marqué la ferme intention de doter la France d'une véritable industrie minière. Un peu moins de 2 ans plus tard, les discussions sont en cours afin de préparer l'ouverture d'une mine de lithium dans l'Allier par la multinationale française Imerys. Alors, risques environnementaux et inégalités sociales sont pointés du doigt lors des discussions autour de cette concertation, alors que l'Union européenne s'est fixé l'objectif d'atteindre 10% d'extraction des métaux dont elle a besoin sur le sol européen et que la Chine continue de contrôler la majeure partie de l'approvisionnement. Faut-il vraiment se lancer dans la course aux métaux stratégiques? Avec nous pour discuter de cette vaste question, nous recevons à distance Emmanuel H, adjoint scientifique et responsable matériaux critiques à l'IFP Énergie Nouvelle et directeur de recherche à l'IRIS et également auteur avec Benjamin Louvet de « Métaux, le nouvel âge d'or » aux éditions du Rocher. Ça s'est paru en 2020. Le sous-titre était « Demain, la pénurie, point d'interrogation ». Donc c'est quelque chose qui va nous intéresser pour cette émission. Également avec nous, mais en studio, Caroline Granier. Vous êtes docteur en sciences économiques et chef de projet à la Fabrique de l'Industrie et membre de l'équipe coordinatrice des activités de l'Observatoire des territoires d'industrie. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors en octobre 2022, on le disait, le groupe français Imerys a annoncé son projet d'ouvrir une mine de lithium dans la carrière de Beauvoir, près d'Échassières, ça c'est dans l'Allier, en Auvergne. C'est une première sur les 50 dernières années, ce fameux projet qui est intitulé EMILI, soit exploitation du mica lithinifère, s'est précisé en janvier 2024. Emmanuel H, avant de comprendre les raisons et les conditions de réalisation de ce méga projet, il faut peut-être commencer par bien comprendre ce qu'est le lithium et quels en sont les usages.
Bonjour. Alors effectivement, le lithium, c'est un matériau qui est absolument phare dans la transition écologique, tout simplement parce que c'est un matériau phare des batteries lithium-ion. Et ce qu'on observe, c'est que ces dernières années, le lithium, ou en tout cas la demande en lithium, et notamment la demande en lithium pour l'ensemble des usages batteries, elle a cru à un rythme très très soutenu d'environ 20% par an. Et cette tendance, elle devrait se poursuivre à l'avenir, tout simplement parce que on va vers une électrification, notamment de la mobilité ou des mobilités, dans le cadre de la transition bas carbone. Et bien évidemment, on va avoir besoin d'énormément de lithium. Et ce qu'il faut voir, c'est que à la base, le lithium, il était utilisé surtout dans la fabrication des verreries, des céramiques, pour les graisses lubrifiantes ou pour la production d'aluminium. Et quelque part, on a une utilisation maintenant massive dans les batteries qu'on appelle les batteries lithium-ion, à la fois des appareils électroniques, c'est-à-dire tous nos objets du quotidien, nos téléphones portables et puis nos ordinateurs, et puis bien évidemment des véhicules dits électrifiés. Ce qui fait que cet élément chimique fait beaucoup parler de lui, tout simplement parce que à la fois sa demande a explosé, mais également les usages ont été complètement diversifiés, et quelque part il y a une véritable révolution du lithium depuis, on va dire, une quinzaine d'années.
Et ce qu'on entend dans ce propos d'Emmanuel H, Caroline Granier, c'est cette idée d'usage diversifié, d'usage nouveau. Ce qu'on entendait aussi dans la voix de Roland Lescure dans les extraits qui ont été passés, c'est qu'en fait, c'est toute une nouvelle industrie qui se met en place sur la base de ces métaux.
Alors, nouvelle industrie, oui et non. Il y a quand même des acteurs historiques en France et dans le monde. Pour rappel, dans l'industrie minière, on a la présence de grands groupes qui sont pour la plupart multinationaux. Historiquement, ils avaient l'habitude de contrôler toute la chaîne de valeur, de l'extraction finalement de la matière première à la production de produits type aimants par exemple, et que avec la mondialisation, Et notamment durant la deuxième partie du XXe siècle, on a eu une spécialisation progressive et une fragmentation des chaînes de valeur qui fait que nos groupes français, se sont spécialisés sur certains segments. Ce qui fait que lorsque l'on connaît des tensions d'approvisionnement, comme on a connu lors de la fermeture sanitaire des frontières, ou bien lorsqu'il existe des tensions géopolitiques, on se retrouve bloqué parce qu'on n'est pas capable, par exemple, de faire venir la matière première pour produire ensuite le bien en question.
Emmanuel H., justement, on parlait de toute la filière, de l'intégralité de la chaîne de valeur. Comment se structure-t-elle dans l'industrie minière? Quelles sont les différentes étapes?
Alors, avant de rentrer dans la chaîne de valeur en elle-même, ce qu'il faut quand même rajouter, c'est que quand on parle de lithium, on parle d'un tout petit marché. La production mondiale de lithium, c'est 130 000 tonnes, à comparer juste avec les 21 millions de tonnes de cuivre, par exemple. Donc, vous voyez qu'on est sur un marché qui est extrêmement petit. Alors après, quand on analyse la chaîne de valeur, j'allais dire d'un métal, de manière générale, on va avoir de l'extraction en amont, c'est-à-dire c'est le point de départ de toute production minière, c'est-à-dire qu'on va faire de l'extraction de minerais. Alors, dans le cas du lithium, c'est assez intéressant parce que on a des gisements de toutes sortes. On va avoir des gisements qu'on va dire conventionnels, notamment ce qu'on appelle les saumures de Salar. Les Salar, ça va être le lithium qu'on trouve notamment dans les Andes, c'est-à-dire en Bolivie, au Chili. Et puis, on va avoir un autre type de lithium, c'est ce qu'on appelle les roches lithinifères. Alors là, on est carrément dans la mine, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu ce qu'on va avoir notamment dans l'Ain et en France. Et puis on a aussi d'autres gisements qui sont dits non conventionnels, et là qu'on va trouver notamment dans les eaux géothermales. C'est ce qu'on appelle de manière assez rapide le lithium vert. Une fois qu'on a ce minerai, eh bien, tout simplement, il va falloir le traiter, et donc on va avoir des phases à la fois de métallurgie où on va affiner, raffiner ce lithium pour qu'il puisse avoir un certain degré de pureté, pour qu'on puisse le faire rentrer notamment dans des éléments de batterie. Et ce schéma, c'est-à-dire de l'extraction jusqu'au raffinage, c'est deux grandes étapes. Il y a beaucoup plus d'étapes intermédiaires, mais quelque part, on est toujours sur ce processus-là. Ça veut dire qu'on a une chaîne de valeur qui est généralement découpée. Si on prend le cas du lithium, par exemple, aujourd'hui, la majeure partie du lithium, elle est raffinée en Chine, ce qui veut dire que le lithium soit extrait au Chili, le deuxième producteur mondial, ou en Australie, le premier producteur mondial. Il y a une grande part du lithium qui va énormément voyager, et on a pu estimer que le lithium minerai pouvait faire jusqu'à 50 000 km avant d'être intégré dans une cellule de batterie pour les véhicules électriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand on a cette fragmentation de la chaîne de valeur, on va avoir des coûts de transport, on va avoir un coût environnemental qui est rattaché à ce coût de transport. Et donc, bien évidemment, plus on va produire local, plus on va pouvoir intégrer rapidement dans une batterie qui serait produite notamment sur le sol français, plus on va avoir un avantage environnemental à le faire.
Et on parlait effectivement du lithium, mais il n'y a évidemment pas que lui. La Banque mondiale estimait que la production de graphite, lithium et cobalt devrait augmenter de près de 500% d'ici à 2050 pour atteindre les objectifs climatiques. Donc bon, on se doute qu'il va y avoir de gros efforts à faire. Et vous parliez du cuivre, Emmanuel H. En fait, tous ces métaux-là sont essentiels à la production d'une industrie décarbonée.
Ah oui, tous les métaux sont essentiels, et notamment lorsqu'on parle de transition bas carbone ou de technologie bas carbone, ce qu'il faut voir, c'est que on va avoir un contenu en métal qui est beaucoup plus important dans les technologies bas carbone que dans les technologies thermiques classiques. Je prends souvent cet exemple-là. Alors ça se rapporte au cuivre, lorsque vous prenez un véhicule thermique classique, vous allez avoir 20 kilos de cuivre. Si vous passez à un véhicule hybride, on va passer à 40. Si vous passez à un électrique, on va avoir 80 kg de cuivre. Ça veut dire que si vous substituez un véhicule thermique par un véhicule électrique, vous allez multiplier par 4 le besoin en cuivre. Alors bien évidemment, on a cette problématique d'urgence climatique et il faut absolument aller vers ces technologies bas carbone, mais ça veut dire qu'on entre dans une ère de transition qui est à la fois écologique, mais également métallique. Et ça, c'est pour toutes les technologies bas carbone, parce que lorsque vous regardez le solaire, bah, c'est de l'aluminium, c'est du silicium, l'éolien, c'est du cuivre, c'est du nickel. Dans les batteries, comme vous l'avez dit, il y a tous les éléments des batteries qu'on appelle NMC, nickel, manganèse, cobalt et bien évidemment du lithium. Et même pour les technologies hydrogène, on va faire appel à du nickel, du platine. Et donc, quelque part, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces métaux, ils ont un pouvoir extraordinaire. Ils nous rendent énormément service. Hein. C'est un levier à la fois de puissance, de conductivité, mais c'est aussi potentiellement un frein à nos technologies bas carbone. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas tout seuls à vouloir faire cette transition écologique. Les États-Unis, la Chine, le Japon, et quelque part, bah, on entre dans une ère métallique de compétition, notamment pour acquérir l'ensemble de ces métaux.
Alors on le voit, la demande est effectivement extrêmement forte, la compétition également. Caroline Granier, est-ce que vous savez si les industriels en France ou plus globalement en Europe craignent une situation de pénurie à l'échelle mondiale ?
Oui, ils ont bien conscience qu'il peut y avoir de telles pénuries. En fait, on va dire la crise sanitaire plus les tensions géopolitiques ont mis cette question-là, on va dire, sur le devant de la scène. Mais c'est une préoccupation qui est au cœur de l'activité, notamment des industriels du secteur automobile depuis un petit moment déjà. On a beaucoup parlé de la crise des semi-conducteurs durant la crise Covid, mais en fait. Il y a eu plein d'autres crises avant et même entre 2020 et aujourd'hui. Il y a encore eu des tensions, et notamment avec la Chine qui met un certain nombre de quotas sur des matières premières. Donc, les industriels ont intégré maintenant cette variable de criticité des matières premières au même titre que les objectifs d'atteinte de rentabilité. Et d'autres types de critères, on va dire, plus traditionnels.
L'évocation de la Chine est intéressante, Emmanuel H., parce qu'on a bien compris qu'une première limite, on va dire, était la très forte demande, voilà, à laquelle il fallait répondre pour tout le monde. Mais le problème, c'est que, justement, l'offre est relativement instable. On le voit depuis 2010, et puis plus récemment, en décembre 2023, Pékin n'hésite pas à restreindre ses exportations de métaux, et c'est ce qui motive notamment l'intention des pays dont les pays européens a proclamé une sorte d'indépendance en termes de matières premières.
Alors oui, effectivement, en fait, je pense qu'on a deux mouvements. On a un premier mouvement, c'est ce que j'appelle l'insécurité des chaînes de valeur. En gros, c'est la fragmentation des chaînes de valeur au niveau mondial et le retour à une certaine à certains blocs dans l'économie mondiale. Il y a un excellent rapport du FMI qui date d'octobre 2023, en fait, qui évoque le terme de géofragmentation. Et donc cette géofragmentation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Tout simplement, on rentre dans un monde où le recours au marché international, ce n'est plus l'assurance pour ceux qui voudraient acquérir des métaux, tout simplement parce que potentiellement, et là on va vers cette deuxième insécurité, il y a une insécurité liée notamment aux restrictions. Et les questions des restrictions, notamment sur les matériaux critiques, et c'est un sujet absolument extraordinaire depuis plus de 10 ans. Pourquoi ? Parce que là encore une fois, lorsque vous regardez les restrictions à l'exportation de matières premières, quel est le segment qui a été le plus touché par les restrictions depuis 2009 ? Ce sont les matériaux critiques. On peut dire à l'heure actuelle qu'environ 10% des matériaux ou des matières premières critiques sont sujets à restrictions. Et quels sont les pays qui, en tout premier lieu, vont faire des restrictions ? Bah, le premier, c'est la Chine, mais vous allez avoir également l'Inde, la Russie, le Vietnam et l'Argentine. Tous ces pays qui potentiellement, d'ailleurs, en passant, font partie, pour bon nombre d'entre eux, de ce qu'on appelle les BRICS+. Et donc, quelque part, la politique de la Chine, hein, alors, on en a beaucoup parlé cet été, notamment sur le germanium, sur le gallium, on en a parlé sur le graphite pendant l'automne, on en a parlé pendant l'hiver sur les terres rares. On a l'impression qu'à chaque saison, son lot de restrictions de la part de la Chine. Et pourquoi là ? Pourquoi ? Tout simplement parce que la Chine, elle a très très vite compris qu'elle avait un avantage. On lui a d'ailleurs en partie construit cet avantage, notamment en délocalisant de manière massive dans les années 90 notre industrie métallurgique, nos technologies, et en se disant tout simplement Pékin va assurer la production de métaux. Bah, quelque part, on a un tout petit peu un retour de bâton. C'est ce que moi j'appelle le réveil douloureux de l'Europe et notamment de la France, en fait, sur la question métallique. On a construit la filière chinoise en lui offrant quelque part la possibilité de créer des champions nationaux. Et aujourd'hui, si on prend notamment une batterie de véhicules électriques, plus de 65% de l'ensemble des métaux, nickel, manganèse, cobalt, lithium, sont raffinés en Chine.
Emmanuel H., vous écrivez dans votre ouvrage « La question qui se pose ici n'est plus de savoir s'il y a assez de métaux dans notre sous-sol pour réaliser la transition, mais si nous pouvons les extraire de la croûte terrestre à une vitesse qui correspond au rythme de développement que nous nous sommes fixés. » Finalement, on a une raréfaction des ressources, certes métallurgiques, mais aussi... De temps, Emmanuel H., c'est ça qui nous prend le plus de cours.
C'est exactement ça. On parle de, avec mon co-auteur Benjamin Louvet, on parle de tragédie des horizons. Pourquoi ? Parce que tout simplement, alors moi j'appelle ça aussi la transition de la transition. Je vais vous expliquer. Gros, on a, si vous voulez réduire la dépendance, vous avez la possibilité notamment d'avoir des politiques publiques telles que le recyclage ou de la production nationale. Le problème, c'est que ça soit le recyclage ou la production nationale, mais notamment la production, pour mettre en production une mine de lithium ou on a la même chose sur une mine de cuivre ou une mine de nickel. Hein. Une mine de lithium, ou en tout cas un salar, entre la première exploration et la première production, il faut entre 5 et 8 ans. Pour le cuivre, on va monter à 14 ans, et pour le nickel, on peut aller jusqu'à 17 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les métaux dont on a besoin, ou qu'on va avoir besoin pendant la décennie qui vient, on aurait dû avoir des investissements il y a une dizaine d'années. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'instant, on ne va pas encore avoir des filières de recyclage qui sont assez efficaces pour nous amener des métaux, et dans le même temps, on ne va pas avoir potentiellement assez de production mondiale parce qu'on a cette problématique du temps. Et la mine, c'est une problématique du temps long. Donc quelque part, là, jusqu'en 2035, on risque d'avoir des problématiques assez importantes sur les métaux, tout simplement parce qu'on n'a pas assez investi dans les dernières années, et la filière du recyclage n'est pas encore capable de nous apporter un métal secondaire d'importance. Et c'est pour ça qu'on a cette problématique de tragédie des horizons, et donc vous rajoutez là-dessus aussi une problématique de financement, parce que quelque part la mine c'est quand même pas non plus l'objet économique qui attire le plus les investissements, hein. Lorsque vous prenez par exemple l'Europe, on a moins de 2% des investissements miniers mondiaux en Europe, et donc vous rajoutez la variable temporelle, vous rajoutez la variable financière, vous rajoutez là-dessus, et on en parlera tout à l'heure, la problématique d'acceptation, bien évidemment, on a tous les ingrédients pour créer, j'allais dire, une problématique assez importante, voire une problématique de crise sur les métaux.
Alors justement, selon l'Agence internationale de l'énergie, pour respecter l'accord de Paris, il faudrait avoir pris des décisions d'investissement dans le secteur minier avant 2025. Caroline Granier, ça vous semble faisable ?
Comme l'a rappelé Emmanuel H., le temps de l'industrie minière et de l'industrie en général, c'est un temps long. Donc, le temps de trouver la technologie, le temps de trouver les financements et bien sûr le troisième point justement évoqué sur l'acceptabilité de la population. Là, ça veut dire qu'il nous reste moins d'un an pour faire tout ça.
Et justement, sur la question des financements, vous diriez que le secteur minier est particulièrement compliqué à financer. Il a du mal à trouver des investisseurs intéressés.
Ce secteur est très particulier. Les coûts d'investissement initiaux, les coûts fixes sont extrêmement importants, et surtout dans des phases, donc pendant la phase d'exploration où on doit forer pour voir vraiment les qualités intrinsèques du matériau, pour voir quel système d'exploitation serait faisable et rentable. Cette période-là est très longue et n'est pas rentable puisqu'elle ne rapporte pas de revenus.
Donc personne ne veut y aller.
Et donc, c'est compliqué d'engager des investisseurs dans ce type de financement-là.
France Culture, entendez-vous l'écho. Aliette Ovine.
Emmanuel H., il faut peut-être redonner toute sa dimension européenne à l'ambition d'une moindre dépendance, on va dire, en termes d'approvisionnement. L'Union européenne rêve d'assurer 25% de la production mondiale de batteries électriques en 2030, contre 2% en 2020. Il faut rappeler les chiffres, même quand ils font mal. Et l'Union européenne s'est dotée d'outils pour cela, sous la forme d'un règlement sur les matériaux critiques, le fameux CRMA, qui est l'acronyme pour la désignation anglaise de ce règlement. Quel est l'enjeu de ce règlement ? Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là?
Alors, il se joue... Alors déjà, il faut saluer l'initiative européenne. Tout simplement parce que c'est la seule qui, à l'heure actuelle, en fait, fixe des objectifs qui sont très ambitieux à l'horizon 2030. Et il faut aussi saluer la rapidité avec laquelle, entre le règlement européen, quand il a été sorti en mars 2023, et sa signature en novembre 2023, ça montre tout simplement l'importance de ce sujet au niveau européen. Et donc ça, c'est à signaler à l'heure où on critique beaucoup les institutions européennes. Qu'est-ce qui se joue ? Il se joue tout simplement la compétition mondiale des 30 prochaines années, tout simplement parce que on a parlé des métaux dans les technologies bas carbone. On oublie aussi de mentionner qu'on a en fait une double transition. Hein. On a une transition bas carbone, on a une transition numérique. Et donc, quelque part, ces doubles transitions, et vous rajoutez toute la problématique qu'il va y avoir avec l'intelligence artificielle, les réseaux intelligents, toutes ces innovations de rupture potentielle des 10 ou 15 ou 20 prochaines années vont être gourmandes en métaux. Donc, quelque part, à travers ce règlement européen, on joue la place de l'Europe dans le monde au niveau international, et ça potentielle compétition et donc quelque part investir sur la question métallifère au niveau européen, c'est véritablement essayer de se positionner. Alors après, il y a juste une composante de laquelle on part très très loin, c'est la composante de diplomatie minérale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a un objectif de 65%, on ne doit pas dépendre à plus de 65% d'un pays tiers au niveau international pour l'approvisionnement en métaux. Le problème, c'est que on part de très loin. Quand je dis on parle de très loin, la Chine a déjà une diplomatie minérale depuis près de 20 ans. Les États-Unis, qui se sont réveillés un tout petit peu plus tôt, autour de 2017 avec Trump, ont aussi une diplomatie minérale qui est beaucoup plus affirmée, avec des relations très importantes, notamment avec le Canada et puis l'Australie. Et puis, les États-Unis ont développé un outil économique, j'allais dire, ils ont sorti un tout petit peu la bombe atomique, hein, avec ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, qui intègre une partie matériaux qui est absolument fondamentale. Donc, ça veut dire que l'Europe joue sa place, elle a des objectifs très ambitieux. Après, est-ce qu'on a les moyens financiers pour réaliser ces ambitions ? C'est véritablement le nœud du problème.
Caroline Granier, l'idée d'une Union européenne comme force de frappe industrielle qui multiplierait les accords bilatéraux et qui donnerait une impulsion, une stratégie, ça vous semble crédible ? C'est de là que partira aussi une refonte, ou en tout cas une restructuration de l'industrie en France aussi ?
Oui, c'est un point de départ qu'il faut maintenant, au-delà des paroles, mettre en place effectivement, et voir comment notamment mettre ça en musique avec aussi le droit de la concurrence.
Et tout un ensemble de régulations dont l'Union européenne a le secret.
Nous avons retrouvé depuis que les Gaulois et les Romains avaient exploité et même largement exploité certaines zones de gisements que nous exploitons aujourd'hui. Mais ceci s'était complètement perdu dans la tradition et il n'est resté absolument aucune trace orale ou écrite d'un gisement d'étain dans la région de Cernan. Nous avons procédé systématiquement en faisant des recherches dans les petites rivières de toute la région, hein, et à l'aide de la bêtée. Et nous avons localisé ainsi une zone minéralisée en étain qui s'étend pratiquement depuis Plouarzel jusqu'à Lannion en passant par Morlaix.
On entendait là une archive de 1967 qui nous expliquait comment se structure la phase de prospection qui permet de définir précisément où se situait un gisement d'étain dans la région de Saint-Renan. Peu de temps après cela va être lancé le dernier inventaire minier en date qui a été mené entre 1975 et 1992. Emmanuel H., est-ce qu'on sait précisément de quelles ressources minières dispose la France aujourd'hui ?
Alors oui, on le sait, mais quand on parle d'inventaire minier, j'ai presque envie de dire que on ne trouve que ce que l'on cherche, parce que tout simplement le dernier inventaire minier, il date, comme vous l'avez dit, de fin des années 70 jusqu'à la fin des années 1980, mais on cherchait pas forcément les mêmes matériaux. Aujourd'hui, on sait que, notamment, on a encore quelques mines, hein, qui sont exploitées en France. Hein, on a des mines de sel, on a du calcaire, on a de la bauxite, on a de l'or, on a du nickel. Mais quelque part, le prochain inventaire minier, il est absolument fondamental, parce que quelque part, on sait déjà que, par exemple, on a des potentiels en lithium qui sont importants, notamment du côté des chassières. On a aussi du lithium des eaux géothermales. Potentiellement, on a quand même un pays très très riche en nickel avec la Nouvelle-Calédonie. On a des potentialités qui sont assez importantes. Alors bien évidemment, on n'est pas encore un Arabie Saoudite des réserves minières, hein. Mais on a quelques ressources qui pourraient être d'intérêt, au premier rang duquel notamment le lithium.
Le projet dans l'Allier, dont on a entendu parler très récemment, est quelque chose que l'on regarde avec évidemment bienveillance.
Imerys a annoncé ce projet fin octobre. Ils ont dit que dans les jours et les semaines qui ont suivi, ils ont été contactés par de très nombreuses personnes. Vous faisiez partie de ces personnes?
Oui, on a commencé effectivement à discuter avec eux. Ça peut permettre effectivement de contribuer à cette sécurisation d'approvisionnement en lithium.
Il y a toujours vécu avec les mines dans la région. Il doit y avoir des mines de lithium maintenant. Je ne vois pas pourquoi on serait contre.
Les familles vont s'installer là. Donc, qui dit famille dit enfant. Pour garder notre école. Et donc, ben, ça serait bien, quoi.
Et s'ils coupent les sources, on n'aura plus d'eau après. Hein. Il y a juste ça qu'on fasse attention. Hein.
Caroline Granier, on entendait là les témoignages d'habitants concernés au premier plan par le fameux projet Émilie, mené dans l'Allier par Imerys. On en parlait en début d'émission. Un projet qui est censé créer entre 500 et 600 emplois directs au moins, et au moins 1000 emplois indirects. Alors, l'enthousiasme des élus locaux, il est compréhensible selon vous ?
Oui, l'enthousiasme des élus est compréhensible parce que avoir une implantation de nouvelles industries, que ce soit des mines ou autres secteurs industriels, c'est un facteur de développement économique du territoire, d'attractivité, et aussi pour les territoires qui ont connu quand même une désindustrialisation très marquée, le moyen aussi de sortir un peu de cette période-là et de retrouver un peu un regain de dynamisme. Général, une image un peu plus positive aussi de l'industrie.
Et en s'installant dans l'Allier, est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi de bénéficier d'une main-d'œuvre qui est déjà formée, et aussi, on parlait de l'acceptabilité en début d'émission, mais d'état d'esprit qui est déjà accoutumé finalement à l'idée de l'exploitation minière. Ça compte dans la stratégie d'implantation d'une mine ?
Oui, oui, s'implanter sur un territoire qui a déjà un passé industriel aide d'une part à faire un peu mieux accepter le projet, même si, encore une fois, ça n'empêche pas une opposition. Encore une fois, l'opposition, ça permet de faire avancer le projet et de lui permettre de s'améliorer. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que ça veut dire qu'il y a aussi un certain nombre, peut-être, d'infrastructures, de connexions ferroviaires, routières, de compétences, qui sont déjà là et qui sont autant de ressources que la nouvelle industrie peut s'emparer pour mener à bien son projet.
Emmanuel H, vous faites partie de la Commission nationale du débat public en charge de l'organisation du débat public pour l'installation de cette fameuse mine de lithium dans l'Allier. Alors je crois qu'il n'y a pas encore, vous n'avez pas encore animé de débat, mais d'où vient la résistance finalement des habitants ? Quels sont les principaux arguments ? Est-ce qu'on parle évidemment des dégâts environnementaux potentiels, des inégalités sociales que ça peut générer ?
Alors, moi je ne suis pas encore intervenu, hein, j'interviendrai en avril sur ces questions-là. Mais tout ce que j'ai lu pour l'instant, bien évidemment, il y a toutes les problématiques de quels impacts environnementaux, et notamment il y a la question de l'eau et de la quantité d'eau qui va être consommée, notamment pour la production de lithium. Il y a un autre argument que je trouve assez intéressant et qui mériterait d'être étudié, notamment de la part des parties prenantes, c'est que on a beaucoup parlé de finalement à quoi va servir ce lithium qui va être produit en France, et je pense que la problématique de l'acceptation, certes, il y a bien évidemment toute la question des impacts environnementaux, mais de plus en plus, la question de l'acceptation, elle se déplace vers les usages. C'est-à-dire qu'on a entendu de nombreuses personnes, et moi j'ai été contacté par mail notamment, qui nous demandent tout simplement, mais finalement, si ce lithium produit en France, il sert à alimenter des SUV, je suis pas d'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a envie que derrière cette question de la réindustrialisation du territoire, on ait aussi une question de modèle de société où on va pas alimenter les SUV. Ça veut dire que potentiellement derrière la production de lithium, il faudrait aussi des réglementations qui permettent notamment de limiter la puissance des véhicules, le poids des véhicules. Et donc quelque part, on a quelque chose d'assez nouveau, je trouve, dans ces contestations. question, c'est l'usage qui va déterminer aussi en partie l'acceptation. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que au niveau local, on a envie d'un projet plus global.
Avec cette idée, Emmanuel H, que ce qui est produit localement doit servir localement également. Mais on aura l'occasion d'en reparler, car c'est déjà la fin de cette émission. Et je vous remercie vivement tous les deux, Emmanuel H et Caroline Granier, d'y avoir participé. Tout de suite, on retrouve la chronique de Dominique Méda.
Pourquoi si peu de filles font-elles des maths ? On l'a vu précédemment, bien que plus diplômées, les femmes sont plus concentrées que les hommes dans un petit nombre de métiers et moins bien payées. L'orientation joue un rôle déterminant. Trop peu de filles vont vers les filières scientifiques. Pourquoi ? Dans sa publication annuelle intitulée « Filles et garçons sur le chemin de l'égalité », la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale indique que la part de filles dans les spécialités de terminale préfigure leur choix futur de l'enseignement supérieur et de métier. Or, dès la terminale, elles sont très peu présentes dans les filières scientifiques qui permettent d'accéder à une palette plus large et mieux rémunérée de métiers. Parmi les élèves de seconde qui envisagent d'aller en première générale, le choix de spécialité diffère ainsi déjà beaucoup selon les élèves. Un peu plus de 35% des filles déclarent vouloir suivre l'enseignement de langue, littérature et cultures étrangères et régionales, contre 15% des garçons, et un peu plus de 49% des filles veulent choisir la spécialité mathématiques, contre presque 68% des garçons. Alors que les filles étaient déjà beaucoup moins nombreuses que les garçons à suivre un parcours scientifique avant la réforme du bac, celle-ci a aggravé considérablement la situation. Selon le collectif Maths et Sciences, on a observé depuis la réforme du lycée une baisse de plus de 60% du nombre de filles suivant un enseignement de plus de 6 heures de mathématiques par semaine en terminale. Aujourd'hui, à 17 ans, une fille française sur deux n'étudie plus les mathématiques contre seulement un garçon sur quatre. Cela n'est pas sans rapport avec le manque de confiance en soi des filles. En 2022, une étude approfondie de cette direction a montré que lorsqu'on leur demande si elles pensent avoir réussi le test de français ou de mathématiques, les filles répondent moins souvent favorablement que les garçons. Cela est particulièrement vrai en mathématiques. Mais cette absence de confiance est le résultat d'une construction sociale. Des travaux récents, menés par Clémence Perronnet et Aurore Mantel, ont montré que la famille et l'école jouent un rôle important dans l'incorporation des normes sociales qui détournent les filles des sciences, et que la culture scientifique est aussi un facteur d'exclusion majeure. Les loisirs scientifiques, qui sont répandus chez les garçons, ne le sont ainsi pas du tout chez les filles, ce qui empêche le développement d'un sentiment de familiarité avec les sciences. Par ailleurs, les femmes scientifiques sont minorées ou invisibilisées, il n'y a pas de modèle féminin. Dans « Matheuses, les filles, avenir des mathématiques », publié en janvier 2024, plusieurs scientifiques battent en brèche quelques poncifs. Je cite « Les discours pseudo-scientifiques qui prétendent prouver l'origine biologique de l'intelligence et les processus d'évaluation à l'œuvre dans le système scolaire desservent systématiquement les femmes. Celles-ci sont toujours considérées comme naturellement moins douées, alors même que des décennies de recherches scientifiques établissent que le sexe biologique ne détermine aucunement les capacités cognitives. Fin de citation. Cet ouvrage passionnant rappelle que, contrairement aux idées reçues, notre intérêt, notre curiosité et nos compétences en mathématiques ne sont jamais déterminées à l'avance par des caractéristiques biologiques. La socialisation familiale est essentielle. On a beaucoup plus de chances de s'intéresser aux maths et d'être encouragé dans cette voie lorsqu'on a des parents scientifiques et surtout pour les filles, une mère scientifique. De plus, les disciplines scientifiques ne sont pas investies de la même façon selon la valeur qu'on leur prête dans le monde social. L'informatique constitue un bon exemple. Loin d'être le résultat de préférences ou de compétences naturelles, l'absence des filles en informatique est le résultat d'une éviction. Alors qu'elles étaient majoritaires dans cette discipline à ses débuts, les femmes en ont été exclues lorsqu'elle a pris de l'importance et est devenue le lieu d'enjeu de pouvoir économique et politique. La conclusion de l'ouvrage est forte. Pour avancer vers l'égalité et réaliser véritablement leur ambition universelle, les mathématiques doivent repenser complètement leur histoire, leur fonctionnement et leur sens.
Un grand merci à vous, Dominique Méda. Votre chronique est à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci infiniment à Françoise Lefloc qui a réalisé cette émission et à Dalia qui l'a mise en onde. Merci également à Inès Gender qui l'a préparée et à Léa Sabourin qui l'a programmée. Merci aussi à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Anouk Millot, Diane Devancé, Léopold de Thiévin, Apolline Limosino et Laurence Jeunepin. Pour réécouter cette émission et toutes les précédentes, c'est sur le site de France Culture que ça se passe, mais aussi sur l'application Radio France.